toute façon, tous les quatrièmes vendredis de toute l'année 2015, sauf au mois de juillet, au mois de décembre, qui tombe à Noël, bien sûr.
Ok, merci beaucoup.
Bonjour, frères et sœurs. C'est toujours une joie de nouveau d'être là et de parler de nouveau de l'Apocalypse. Nous avons commencé la fois passée avec les lettres que le Christ glorifié écrit à ses églises. Une lettre venue du Christ lui-même. Ça, j'aimerais recevoir, n'est-ce pas? J'en ai reçu une hier des impôts. C'était moins agréable, ça. Hein? Vous aussi, vous me suivez. Mais une lettre qui vient de Jésus lui-même. Et une lettre pas seulement à une personne, mais des lettres qu'il écrit à ses églises. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit dans l'introduction de la fois passée, mais c'est ça que nous lisons. Et la fois passée, nous avons vu dans le deuxième chapitre quatre de ces lettres. Ce soir, dans le troisième chapitre, trois lettres. Trois lettres assez courtes, mais avec un contenu très profond que j'espère partager avec vous. Nous allons lire la première. Donc, nous sommes dans l'Apocalypse au chapitre 3. Et nous lisons ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu sais que je passe pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Excusez-moi. La ville de Sardes était à une cinquantaine de kilomètres de Thyatire, là où nous étions à la fin de la dernière réunion. Et c'était une ville qui était une ville fortifiée avec une citadelle, une ville grecque. La citadelle en grec s'appelle Acropolis. Et cette citadelle était construite sur un plateau du mont Molus et 500 mètres au-dessus de la plaine en dessous. C'était une ville réputée imprenable. Les gens qui habitaient cette ville étaient convaincus qu'ils ne seraient jamais en danger. Mais Cyrus, le roi de Perse, mentionné dans l'Ancien Testament de la Bible, il a pris cette ville. Pas peur par un assaut avec ses armées, mais par un seul soldat qui, pendant la nuit, a grimpé dans une fissure dans le rocher, qui a pénétré dans la citadelle, et le lendemain matin, il a ouvert la porte et l'armée pouvait entrer dans la ville. Sardes était une ville qui était très riche à l'époque du Nouveau Testament. La sable de sa fleuve Pactole était très riche en or. Et Sardes était donc la capitale du royaume de Lydie, avec son palais somptueux du roi Crésus, qui était le roi réputé à l'époque l'homme le plus riche de tout le monde. Et Sardes était connu aussi pour le commerce de la laine et de la teinturerie. Il avait un temple dédié à la déesse Cybèle, la mère des dieux. Et la pierre précieuse sardonyx était trouvée aux environs de Sardes, et on croyait à l'époque que cette pierre précieuse chassait la peur. Si vous aviez une de ces pierres précieuses, vous n'aurez jamais peur, vous serez toujours courageux et heureux. Cette pierre était aussi réputée libérée de la sorcellerie, et elle était réputée donner de l'intelligence. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse juger pour vous-même. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de la ville de Sardes, juste un petit village turc qui s'appelle encore Sar. La lettre nous plonge déjà dans des problèmes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Il y a combien d'esprits de Dieu? Pour les théologiens parmi nous, sept. Ça va bouleverser notre théologie, n'est-ce pas? Si nous croyons qu'il y a sept Saint-Esprit. Ouh! Mais Jésus, c'est Jésus qui l'écrit, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Celui qui a les sept Esprits de Dieu. Et c'est pas seulement ici, dans l'Apocalypse, quatre fois nous lisons des sept Esprits de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sept Esprits de Dieu? Soyez déjà rassurés, non. Je vous ai dit toute première soirée que quand on lit le livre de l'Apocalypse, il faut le lire avec des lunettes juives. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Alors, mais si maintenant je mets mes lunettes juives, et je le lis comme un juif, et je lis cet Esprit de Dieu, je n'ai pas de problème, je sais très bien ce que ça veut dire. Un juif sait vous l'expliquer tout de suite. Il ne s'agit pas de sept esprits différents, individuels. Il s'agit de sept aspects de l'esprit qui, ensemble, forment sa plénitude, sa perfection. Et un juif va vous renvoyer dans l'Ancien Testament. Dans un des chapitres du prophète Ésaïe, un de ces chapitres messianiques du prophète Ésaïe, le chapitre 11, il y en a encore d'autres, et il va vous lire ceci, concernant l'Esprit de Dieu qui reposera sur le Messie. C'est un chapitre qui parle du Messie. Et Ésaïe dit ceci, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On a sept aspects de l'esprit là, en total. Esprit de l'Éternel, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Les sept esprits de Dieu ne sont pas sept esprits individuels, ce sont sept aspects qui ensemble créer une perfection. Alors celui qui a les sept esprits de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui vit et qui vient dans la plénitude de l'esprit. Ce serait bien si nous on faisait la même chose, n'est-ce pas? Nous essayons de vivre dans l'esprit. Nous essayons de vivre par l'Esprit, mais il y a tant d'aspects de notre vie qui ne sont pas l'Esprit de Dieu, mais qui sont l'Esprit du monde. Mais c'est Jésus, on n'identifie pas un seul aspect de l'Esprit du monde. Il n'y a que les aspects de l'Esprit de Dieu. Et puis qu'il y a les sept étoiles, nous avons déjà vu ça, vous vous rappelez? Jésus qui a les sept étoiles, c'était quoi les sept étoiles? Quelqu'un se rappelle? Faut faire vos devoirs, hein? Les anges, les pasteurs des églises, Jésus les a en main. J'espère que Jésus a les pasteurs de ses églises en main. Si Jésus a les pasteurs de ses églises en main, les églises sont dans des très très bonnes mains, n'est-ce pas? Voici ce que dit celui qui a les sept églises, les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Ça peut être quelque chose pour nous réjouir ou ça peut être quelque chose de menaçant. Si nous savons que nos œuvres sont bonnes, je n'ai rien contre que Jésus les connaît. Mais est-ce qu'il y a des œuvres dans ma vie et dans votre vie qu'on préférerait que Jésus ne connaisse pas? Eh bien, Sardes, c'est le problème. Je sais, c'est Jésus qui le dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui se présente d'une façon, mais qui en réalité est juste le contraire? Comment est-ce qu'on appelle cet homme-là? Un hypocrite, n'est-ce pas? Quel dommage si une église est hypocrite. On peut avoir un beau bâtiment, on peut avoir une très belle façade, une croix, un titre, mais si à l'intérieur, ce n'est pas la même chose qu'à l'extérieur. J'ai des amis qui ont des poules, et ils m'ont donné une boîte d'œufs, tout frais. Je me suis dit, je vais me régaler, je vais me faire une bonne omelette. Prends l'œuf, je le casse, c'était pourri, l'intérieur. Deuxième, la même chose. Tous les six, la même chose. Pourtant, les œufs avaient l'air d'être très très bien. Des œufs hypocrites. N'est-ce pas? Vous me suivez? Quelle déception! J'ai pas osé le dire à mes amis, hein. J'ai pas osé le dire. Mais quelle déception! Et est-ce que nous ne sommes pas une déception pour notre Seigneur? Nous venons à l'église, nous servons le Seigneur, nous louons, c'est, oh, nous sommes des bons chrétiens. Mais, quand on rentre chez soi, et dans la semaine, l'hypocrisie est un péché grave. Et c'est un péché qui menace, soyons honnêtes, tous les enfants de Dieu et toutes les églises de Dieu. N'est-ce pas? Jésus accuse les scribes et les pharisiens. En un seul chapitre, Matthieu 23, il les accuse 8 fois d'hypocrisie. Et il introduit ce chapitre avec une instruction. Faites, il parle des scribes et des pharisiens, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Scribes et pharisiens, hommes, entre guillemets, de Dieu, mais qui ne le sont pas véritablement. Ça, c'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? Dire une chose, faire une autre. Paul dit, de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, dit Jésus. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il y a, frères et sœurs, là-dedans, je pense pas que j'ai besoin de prêcher là-dessus, c'est si clair. Et nous le savions déjà avant de venir à l'église ce soir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le souligne de nouveau. Il nous avertit de nouveau. C'est tellement important. Je connais tes œuvres. je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. » Et puis Jésus dit ceci, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Ça vous étonne, Seigneur? Que mes œuvres ne soient pas parfaites? Est-ce que tu pensais vraiment que moi, pécheur que je suis, que mes œuvres seraient parfaites? Ceux qui sont parfaits dans la salle peuvent rentrer déjà à la maison. Qu'est-ce que vous faites ici si vous êtes parfait? Une personne qui part. Heureusement. Pourtant, Dieu cherche toujours la perfection. Incroyable ça, hein? Il y a un verset dans l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. Il ne donne pas au grand public, mais il le donne à ses disciples, en Matthieu 5. C'est dans ces chapitres-là de Matthieu 5, 6, 7, où Jésus donne un enseignement très particulier à ses disciples. Et à la fin du chapitre 5, il dit, « Soyez parfaits !» C'est un ordre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous qui êtes francophone, moi je suis pas francophone, mais « Soyez parfaits », ce n'est pas un conseil, hein? C'est un commandement, c'est un ordre. Et « Soyez parfaits » comment ça? Comme votre pasteur est parfait. Comme le prédicateur visiteur est parfait. Non? Le niveau est beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors on ferait mieux de tous rentrer à la maison maintenant, n'est-ce pas? Parce que ça, est-ce que c'est possible? Jésus dit, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Il attendait la perfection et il l'a pas trouvé. Tu as, à Sardes, quelques hommes seulement qui n'ont pas souillé leurs vêtements. L'église de Sardes est près de mourir. Elle chancelle au bord de la ruine. Elle a perdu sa sanctification. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu sa sanctification? Il n'y a pas mention ici des Nicolaïtes qu'on a vu dans des autres églises, ou des adeptes de Balaam ou de Jézabel qu'on a vu dans des autres églises. Il n'y a pas une accusation d'idolâtrie ou d'impudicité ou de division comme on a vu dans les autres églises. Alors comment ça se fait que cette église à Sardes est cotée si bas? Pire encore que les péchés virulents des autres assemblées. L'église de Sardes souffre de la mort spirituelle, de la sécheresse spirituelle, de l'hypocrisie, des choses encore plus affreuses que la tolérance du péché vue dans les autres églises. Je répète, c'est une église hypocrite. Mais Jésus ne la démissionne pas. Il ne la détruit pas. Il ne l'efface pas. Comme il a fait à ses autres églises, il lance à cette église un appel. Parfois, on pense qu'une église est condamnée. Elle est tombée si bas, il y a tant de problèmes, que on ferait mieux de fermer les portes. J'ai connu une église à Bruxelles, il y a des années. Il y avait des sérieux problèmes. Pasteur était tombé dans un péché très grave. Il y avait des disputes, il y avait des divisions. Et trois pasteurs du mouvement en Flandre, c'était une église flamande, trois pasteurs on leur a demandé de s'occuper de cette église pour essayer de la redresser. Ils sont venus, ils ont parlé avec les gens dans l'église, ils ont dit, il n'y a qu'une seule chose à faire dans cette église, fermer la porte. Ils ont fermé la porte. Je vais dans les églises à Bruxelles aujourd'hui de temps en temps et je rencontre quelqu'un, un frère ou une sœur, qui était membre de cette église-là, qui porte des blessures incroyables parce qu'on a fermé leur église. Jésus ne ferme pas une église. Il va la redresser. Il va la remonter. Même si elle est tombée si bas. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce que Jésus fait avec nous quand nous nous tombons très bas? Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous donne un coup de pied? Non. Il va nous chercher. Il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu. Je ne vais pas prêcher ce soir, mais je pense à Pierre, qui a renié son sauveur 3 fois. Et à qui Jésus demande, m'aimes-tu? Incroyable, hein? Cet entretien que Jésus a avec Pierre, là, au bord de la mer de Galilée, tout l'entretien est autant présent. On ne parle pas du passé. Il demande pas à Pierre, m'as-tu aimé? Il demande pas à Pierre, vas-tu m'aimer? M'aimes-tu maintenant? Et quand Pierre dit, tu sais que je t'aime. Jésus ne lui donne pas une lettre de démission, il lui donne un nouveau contrat. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et si Jésus relève une seule brebis qui est tombée, même si elle est tombée si bas, et renier le Seigneur s'est tombé déjà très bas, Jésus lui-même a dit, celui qui me renie sur la terre, je le renierai devant mon Père. C'est très bas. Mais Jésus remonte Pierre, et Pierre devient le grand apôtre, à qui l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui doit tant. Et quand une Église tombe bas, Jésus l'aide à remonter. Faisons la même chose, mes frères et sœurs. Faisons la même chose. Qui détruit des églises? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable, vous êtes d'accord? Diable n'aime pas l'Église, vous savez. Il n'aime pas l'Église de Dieu. Il n'aime pas l'Église à Sardes. Il ne demande pas mieux que l'Église de Sardes soit rayée de la carte. L'Église de Bois-de-Villers soit rayée de la carte. Ne lui donnons jamais un coup de main. Mais donnons plutôt de l'aide au Seigneur pour toujours remonter son Église. Et Jésus donne donc un appel à l'Église de Sardes, un triple appel. D'abord, sois vigilant. Vous savez, l'hypocrisie d'habitude ne s'installe pas dans une personne ou dans une église comme ça, dans une seconde. D'habitude, c'est un processus. Ça ne vient pas d'un jour à l'autre, mais ça grandit petit à petit, un peu comme la lèpre et beaucoup d'autres maladies. Ça commence tout petit et ça grandit petit à petit. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et de préférence, qu'il faut effacer l'hypocrisie dès que ça se manifeste. C'est comme ça avec n'importe quelle maladie, n'est-ce pas? Il ne faut pas attendre que ça devienne vraiment chronique, que ça devienne vraiment au stade terminal avant de le traiter. Il vaut mieux le traiter tout de suite, tout de suite. On a beaucoup plus de chances et beaucoup plus de facilité de guérir. Sois vigilant. Jésus dit, et c'est une autre raison de rester vigilant, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Comme nous l'avons déjà vu auparavant dans ces études, Jésus est très patient. Vous rappelez, il a donné du temps à Jézabel pour qu'elle se repente. Mais la patience de Dieu, même si elle est très longue, ne dure pas éternellement. Alors, ne méprisons pas les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, qui nous poussent à la repentance. Si nous trouvons chez nous-mêmes ou dans notre Église de l'hypocrisie, traitons-le. Et comment est-ce qu'on le traite? Pas en accusant des gens. Non, on le traite en se repentant, en le confessant, en demandant pardon, et avec l'aide du Seigneur, de faire mieux dans l'avenir. L'apôtre Paul écrit, Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Jézabel n'a pas voulu se repentir, et Dieu a fini par lui envoyer une grande tribulation. Jésus prévient l'Église à Sardes, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » On connaît, on comprend très bien là le symbolisme. On ne sait jamais quand un voleur va arriver. Il vient toujours inattendu. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça veut dire un jour, il sera trop tard. Plus de possibilités de repentance, d'abandonner l'hypocrisie. Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous pouvons et nous devons nous examiner nous-mêmes. Vous connaissez les paroles de l'apôtre Paul en rapport à la Sainte Cène, que chacun s'éprouve soi-même. S'éprouver soi-même. Sois vigilant, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Sois sobre, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Deuxième appel du Seigneur à l'Église de Sardes, affermis le reste qui est prêt de mourir. Tout n'est pas encore perdu dans cette Église. On dit parfois, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir encore. Et dans une Église, la même chose. Il y a quelques personnes encore dans l'Église de Sardes qui ne sont pas tombées dans le péché et l'hypocrisie. Il y a quand même quelques personnes encore qui suivent le Seigneur. Tout n'est pas encore perdu. Et s'il y a encore un charbon qui brûle, le feu peut encore être ranimé. D'accord? Vous rappelez les personnes âgées parmi nous, comme moi, avant qu'on avait le chauffage central où on avait des poêles, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Poêle à charbon. Et on descendait le matin et on aurait dit que le poêle s'était éteint, n'est-ce pas? On ouvrait la petite porte et on voyait encore quelque part un tout petit peu de rouge. On savait ranimer ce feu, n'est-ce pas? Il fallait pas tout sortir et recommencer de nouveau. On pouvait le ranimer. Et même s'il y a un tout petit peu de rouge encore dans l'Église, tout n'est pas encore perdu. L'Église de Sardes est mourante, mais elle n'est pas encore morte. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui si vous entendez sa voix? N'endurcissez pas vos cœurs. Et troisièmement, dans cet appel, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. En d'autres mots, retourne en arrière. Comment est-ce que tu étais quand tu as reçu la parole de Dieu? Quand tu as entendu la parole de Dieu? À ce moment-là, tu étais ouvert, tu avais soif, tu étais enthousiaste. Tu avais ce que Jésus dira plus tard dans une autre lettre, ce premier amour. Qu'en est-il aujourd'hui? Je pense qu'il est bien de temps en temps pour un chrétien de faire un inventaire de sa vie. Si je regarde en arrière, j'ai le privilège de servir le Seigneur déjà depuis 55 ans. Et à ma honte, je dois dire qu'il y a eu des périodes pendant ces 55 ans où je crois que j'étais plus près de Dieu, où je servais le Seigneur mieux, où j'avais plus d'enthousiasme. C'est peut-être chez vous la même chose. C'est bien de temps en temps de faire un inventaire, et quand on fait l'inventaire, d'être très honnête avec soi-même devant Dieu. Et quand on voit que ce n'est pas 100% comme ça devrait être, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et alors garde-la et repens-toi. Il y aurait ici toute une étude biblique ou tout un message sur la puissance de la repentance. Si difficile, n'est-ce pas? Si difficile se repentir. Reconnaître à soi-même qu'on a tort, qu'on n'est pas là où on devrait être, qu'on n'est pas ce qu'on devrait être, qui on devrait être. Difficile, encore plus difficile à le confesser à quelqu'un d'autre que de le confesser à soi-même. Mais il faudrait qu'on fasse l'inventaire et quand c'est nécessaire, confesser à soi-même, confesser au Seigneur. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Allons un peu pour un instant dans le jardin de Gethsémané, où Jésus prie pour ses disciples, pour les siens. Père, dit-il, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ça, c'est quelque chose. Regardez un peu la personne assise à côté de vous. Regardez un peu. Et puis, posez-vous la question, est-ce que j'aimerais être assis à côté de lui ou à côté d'elle éternellement? J'espère que la réponse est, mais certainement. Et pourquoi est-ce que j'espère que la réponse est, oui, certainement? Parce que même si ce ne l'est pas, vous risquez quand même de l'être. N'est-ce pas? Mais beaucoup, beaucoup plus formidable que ça. Jésus dit à son Père, imaginez ceci, il y a encore une bonne heure, ils étaient encore dans la chambre haute. Et Jésus dit, ceux qui sont avec moi, oh Père, je voudrais qu'ils soient avec moi pour toujours dans l'éternité. Ceux qui sont avec moi, enfin ceux qui sont avec toi, ces 12 disciples, tu voudrais avec eux, être avec eux dans l'éternité. Il y a l'un dans la chambre haute qui a dit, montre-nous le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Mon saint, s'il vous plaît, Thomas, vous avez été avec le Seigneur pendant 3 ans et demi et vous n'avez pas encore compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et après sa résurrection, tu refuseras même à croire qu'il est ressuscité. Vous voudrez être avec un homme comme ça toute votre éternité. Et puis Philippe qui dit, montre-nous le Père. Vous avez été 3 ans et demi avec Jésus, vous n'avez pas compris que le Père est en lui et que lui est dans le Père. Je ne parlerai pas des autres. Mais Jésus dit, je voudrais que ceux que tu m'as donnés, qu'ils soient avec moi éternellement. Et parmi les autres, il y a encore un qui s'appelle Judas Iscariote. Voudrait être à côté de lui toute l'éternité au ciel. Je ne pense pas que vous risquez de l'être, malheureusement, parce qu'il ne s'est pas repenti. Et pourquoi est-ce que Jésus veut que nous soyons avec lui? Afin qu'il voie ma gloire. Jésus veut que nous voyons sa gloire. Alors je dois dire, là Jésus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais voir ta gloire. Il y a 3 parmi eux qui ont vu sa gloire, n'est-ce pas? Sur la montagne de la Transfiguration. Et un jour, nous verrons sa gloire. Et la promesse du Seigneur, et on parlera de ça la fois prochaine, c'est que quand nous le verrons, nous allons le ressembler. Il ne va pas nous ressembler, nous allons le ressembler. Vous êtes très jolis, vous qui êtes ici ce soir, vous êtes très beaux, très belles, mais ce n'est rien comparé avec ce que vous allez être, n'est-ce pas? Je veux qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et alors il promet des vêtements blancs. Nous avons déjà vu cela. Ça parle de la pureté céleste. Un hypocrite ne porte pas un vêtement blanc. Il porte peut-être un masque, mais pas un vêtement blanc. Il porte du camouflage, mais pas un vêtement blanc. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Là, nous parlerons de ça la semaine prochaine aussi. Celui qui vaincra sera vêtu des vêtements blancs. Et puis Jésus dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. À Sardes, il y avait un livre d'honneur avec les noms de tous les distingués, toutes les personnes distinguées. Si une de ces personnes se déshonorait, on effaçait son nom. Ce qui était une très très grande honte. Et pas seulement une honte, si on effaçait son nom, il perdait ses droits de citoyenneté dans cette ville. Il y a la même chose. Il y a la même chose avec le livre de vie. Il y a au ciel le livre de vie et chaque chrétien, chaque personne qui se convertit à Jésus, son nom est écrit dedans. Il y a des prédicateurs des églises qui enseignent une fois sauvé, toujours sauvé. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. Ils ont raison. Vous ne pouvez pas le perdre, mais on peut le rejeter. N'est-ce pas? Et si on tourne le dos à Jésus et sa parole, et si on le renvoie de sa vie, on lui dit, on ne veut plus de toi. Jésus, sors de ma vie. Il va effacer notre nom du livre de vie. Je me dis, ça doit être le pire des chagrins qu'on puisse avoir au ciel, à l'enfer. C'est-à-dire, il y aurait des gens dans l'enfer qui auront beaucoup de chagrins qui ne se sont jamais convertis au Seigneur. Mais ça doit être encore pire le chagrin de ceux qui se sont convertis au Seigneur. Et puis, qui l'ont quitté. Moïse, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. La leçon de Sardes est si facile, n'est-ce pas? Je ne vais pas la répéter, c'est très, très facile à comprendre. La lettre n'est pas difficile. Alors passons à la prochaine, qui est la lettre à l'église de Philadelphie. Quand vous lisez ces sept lettres aux églises, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des églises où je me dis, cette église-là, Sardes par exemple, je ne voudrais jamais être membre là. Hein. Église, non, je ne vais pas m'adhérer à l'église de Sardes. Par contre, l'église de Philadelphie, là j'aimerais bien être membre. Ce n'est pas pour rien que notre église à Anvers s'appelle l'église évangélique Philadelphia. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom, c'était mon prédécesseur. Mais je ne connais pas, je connais aucune église, peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais entendu parler d'une église qui s'appelle Église évangélique Sardes. Ils n'auraient pas de membres. Mais Philadelphie, lisons la lettre, formidable, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici que, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux qui de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. La ville de Philadelphie existe encore aujourd'hui en Turquie. Elle s'appelle pas Philadelphie, elle s'appelle Alachère, qui veut dire en turc « cité de Dieu ». Et c'était une ville fondée, en somme, ses origines étaient égyptiennes. C'était fondé un siècle et demi avant Jésus, et les Romains l'ont conquis très peu après qu'elle a été fondée. Et les environs de Philadelphie sont d'origine volcanique, et un sol volcanique favorise la culture du raisin. Et on faisait beaucoup de vin à Philadelphie, du très bon vin. Ces pièces de monnaie portaient même la tête de Bacchus, le dieu du vin. Mais malgré qu'elle avait du bon vin à vendre, c'est une ville qui est restée toujours très petite et très peu importante, dépendante en somme de Sardes à quelques 50 kilomètres de là. Mais même si c'était une ville qui était petite, elle abritait quand même beaucoup de temples idolâtres, d'où son nom, ou son surnom à l'époque, Petite Athènes, à cause de tous ces temples. Et là, dans cette ville, il y a une église. Une église que, comme vous l'avez remarqué en lisant le texte, ne reçoit que des compliments du Seigneur. Il n'y a pas une seule menace, il n'y a pas une seule critique, que des compliments. Elle semble être une église où l'amour règne. Il n'y a pas mention d'hérésie, d'idolâtrie, de division, de fausse doctrine, d'impudicité. Il n'y a que des bonnes choses. Jésus s'introduit, comme il le fait à toutes les églises, et crie à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, qui a la clé de David, celui qui ouvre, que personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Voici ce que dit le Saint. Première fois qu'on trouve le mot Saint dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire, Saint? Qui sont les saints? La Bible dit, nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Jésus n'est pas un saint, il est le saint. Nous, nous sommes des saints, n'est-ce pas? Saint veut dire séparé. Ça ne veut pas dire quelqu'un avec une auréole. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de péché. Ça veut dire quelqu'un qui s'est séparé du monde pour suivre Jésus. Mais Jésus est le Saint et le véritable. Nous le connaissons ainsi comme ça dans un autre livre de Jean, n'est-ce pas, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, le véritable. » Et celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Qu'est-ce que c'est ça, la clé de David? Eh bien, 8 siècles avant la naissance de Jésus, Dieu prophétise encore une fois par la bouche du prophète Ésaïe. Je mettrai sur son épaule, il parle du Messie, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Jésus dit ici, je suis celui qui a la clé de David. C'est la même chose. Et Ésaïe dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Là, nous comprenons. J'espère. C'est-à-dire que personne, y compris le diable, ne peut fermer les portes que Jésus ouvre. D'accord? Et personne, y compris le diable, ne peut ouvrir les portes que Jésus ferme. Alors, si nous croyons ça, ne perdons pas notre temps et nos efforts à essayer d'ouvrir des portes que Dieu a fermées ou à fermer des portes que Dieu a ouvertes. Je pourrais prêcher un message ici sur la direction divine. Beaucoup de chrétiens font quelque chose de très compliqué, la direction divine. Comment connaître la voix de Dieu? Comment savoir ce qu'il veut que je fasse? Avant de venir en Belgique, mon vieux pasteur en Angleterre, le dimanche, avant que je ne vienne en Belgique, il m'a appelé devant, et devant toute l'église, ils ont prié pour moi et m'ont imposé les mains. Et le pasteur a dit, le Seigneur m'a donné un texte pour toi. Et c'était justement ça. Que Jésus a la clé de David. Ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il a dit, Dieu va faire ça dans ta vie. Ne perds pas ton temps à essayer d'ouvrir des portes que Dieu a fermées ou à essayer de fermer des portes que Dieu a ouvertes. Et puis, il m'a donné le verset suivant. Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il suffit, dans la direction divine, pour notre vie, pour nos églises, de trouver des portes ouvertes que Dieu a données. Comment est-ce que vous savez si une porte est ouverte ou pas? Poussez dessus. Non? Si elle s'ouvre, c'est qu'elle n'est pas verrouillée. Et si elle est verrouillée, vous pouvez pousser dessus, elle ne va pas s'ouvrir. Alors ne prenez pas un marteau ou une hache, mais acceptez que si Dieu a fermé cette porte-là pour vous, ce n'est pas sa volonté pour vous. Et cherchez la porte qu'il a ouverte pour vous. Voyez que la direction divine n'est pas si compliquée. Occupons-nous à découvrir ces portes que Dieu ouvre pour nous. Il faut parfois faire un petit effort, se lever et pousser dessus. Pas seulement entendre et dire, Dieu, toi tu ouvres la porte. Faut juste pousser, voir si c'est ouvert. Comment savoir quelles portes sont fermées et quelles portes s'ouvrent? Pousser dessus. Exemple de l'apôtre Paul. Voyage missionnaire. Où aller? Il y a, à cette époque, n'est-ce pas, nous sommes tout au début de la mission de l'Église. Tout le monde est à évangéliser. Il n'y a presque rien déjà qui a été évangélisé. Où commencer? En Wallonie, en Flandre, en Amérique, en Chine? Où commencer? Ils cherchent à savoir le plan de Dieu et ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. La porte en Asie ne s'est pas ouverte. Ils traversent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Encore une porte fermée. Ils poussent sur la porte de l'Asie, fermée. Ils poussent sur la porte de la Bithynie, fermée. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Et après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne nouvelle. Il traverse. En Macédoine, c'est-à-dire, ils entrent en Europe. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Une porte grande et ouverte. Le Saint-Esprit a fermé certaines portes. Il a ouvert une autre. Il y a là une leçon. Il y a aussi un sermon là-dedans, n'est-ce pas? Ne perdons pas notre temps à pleurer à cause des portes qui sont fermées. cherchons les portes qui sont ouvertes. Si Dieu, pour un chrétien, si Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il ouvre une autre. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Petite église qui n'a pas beaucoup de puissance, beaucoup d'églises que je connais sont comme ça. Et parfois on dit, oh, une petite église, ils n'ont pas beaucoup de puissance, peut pas attendre beaucoup d'elle. On veut toujours être une grande église, n'est-ce pas? Oui? Non, vous voulez pas être une grande église. Attention, hein? Dangereux, ça. Je me rappelle une sœur à Anvers, quand notre église commençait à grandir, elle est venue me trouver un jour, elle dit, frère, il faudrait faire quelque chose. Il faut pas que notre église grandisse encore. Il commence à, non, qu'elle dit, parce que c'est un problème, hein, qu'elle dit, frère, quand l'église grandit, maintenant tout le monde connaît tout le monde. Mais si nous devenons des centaines, on sera plus comme une petite famille. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Que je ferme la porte à clé? Qu'on peut pas avoir des nouveaux qui viennent dans l'église? Ben, je sais pas, frère, qu'elle dit, je sais pas, mais faut pas que l'église grandisse encore. Je dis, sœur, est-ce que vous espérez passer l'éternité au ciel? Oui, qu'elle dit, bien sûr. Je dis, je vous déconseille. Je dis, il y a tous les jours des milliers de nouveaux. N'est-ce pas? Bien sûr que nous voulons que nos églises grandissent. Nous voulons des grandes églises. Bien sûr. Mais s'il vous plaît, ne démissionnons pas les petites églises. Parce que toute grande église a commencé petite. Oui ou non? On n'a jamais commencé avec une église de 100 000 personnes. On a toujours commencé avec une poignée de gens. Je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et si une petite église veut devenir grande, garder sa parole est essentiel. Parce qu'une église est toujours construite sur la parole. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il faudrait prier que chaque église devienne trop petite. Que chaque bâtiment d'église devienne trop petite, n'est-ce pas? Que Dieu sauve des âmes. Dieu a un plan pour chaque église. Et il est important pour chaque église de découvrir quelle porte est-ce que Dieu ouvre pour nous. Et quelle porte est-ce qu'il ferme. Nous avons eu l'expérience à Anvers, et c'est pas facile à vivre, où on s'est lancé dans des projets, et après un temps, on a dû se rendre à l'évidence que Dieu ne bénissait pas, que le projet ne réussissait pas. Et puis il est très difficile de se lever devant l'Église et de dire, on s'est trompé, on va arrêter. Mais il faut faire ça. Parce qu'il faut aussi longtemps qu'on s'investit, finance, effort, temps, dans un projet qui n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est du temps et de l'argent et des efforts qu'on n'investit pas dans des projets que Dieu a voulu. Si important pour chaque Église de connaître le programme pour l'Église. Jésus complimente l'Église de Philadelphie parce qu'elle a gardé sa parole. Et Jésus dit ça souvent. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous venons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. En vérité, regardez cette promesse-ci. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Vous savez, au ciel, tout le monde a des maisons, une maison. Jésus a promis, hein, je monte au ciel, qui dit à ses disciples, je prépare une place. En français, je crois que c'est, je vous prépare une place. En flamand, je vous prépare une maison. Vous voyez que la Bible flamande, elle est meilleure. Hein. Je vous prépare une maison. Et dans cette maison, je suis curieux de savoir ce qu'il y a, il y aurait. N'est-ce pas? Comment seront les meubles? Comment, est-ce qu'on aura un grand écran de télévision, qu'est-ce qu'on aurait dans la maison? La Bible, vous l'avez remarqué, la Bible ne dit pas. Parle de maison, mais dit pas plus. Sauf une chose. Sur la table dans le living, il y a un livre. Et quel livre? Ce livre. Parce que le ciel et la terre vont passer. Mais sa parole ne passera jamais. Est-ce qu'on lira la Bible au ciel? Oui. Oui, hein? Oui. Bien sûr. Si vous aimez ma parole, gardez mes commandements. Et celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Les Juifs, vous savez comment ils s'appellent, eux, le peuple du livre. Et c'est vrai. Et ils adorent la parole de Dieu. Et nous aussi, nous devons être le peuple du livre. Comme nous l'avons vu, Jésus se présente à cette église comme le véritable. Et la vérité, c'est la base de la foi. N'est-ce pas? La vérité, c'est aussi la base de l'unité. Important ça. Le témoin de Jéhovah qui vient chez vous à la porte, qui raconte des doctrines que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons jamais former une unité avec lui, hein? Impossible. Pas parce que nous ne l'aimons pas, nous devons même aimer nos ennemis. Mais la base de l'unité n'est pas l'amour. La base de l'unité, c'est la vérité. Et Jésus est le véritable. Nous ne devons jamais compromettre la vérité. Aimer tout le monde, même nos ennemis, mais jamais compromettre la vérité. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver ses habitants. Nous allons parler de ça largement, Dieu voulant, la fois prochaine. Cette heure de tribulation, de tentation, est-ce que les chrétiens vont l'expérimenter ou pas? Est-ce que l'Église va passer dans la grande tribulation ou non? C'est un sujet intéressant, n'est-ce pas? Jésus dit, la détresse, alors, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Mais si nous gardons la parole de Dieu, Jésus dit, nous n'avons rien à craindre de la grande tribulation. Je connais tes œuvres, peu de puissance. L'Église petite, mais ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça, c'est quelque chose. Le monde rejette le petit, n'est-ce pas? Le faible. N'a rien à dire dans le monde, n'est pas important. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Le Seigneur ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra point la mèche qui brûle encore, annoncera la justice selon la vérité. Souvent, des enfants de Dieu se sentent petits, impuissants, incapables. Et parfois, ils le sont aussi. Mais ne nous décourageons pas, parce que c'est justement ça que Dieu apprécie. Quand on est consacré à lui. L'église s'appelle Philadelphie. Vous savez ce que ça veut dire? Amour fraternel. Bon nom pour une église, non? Elle n'a pas renié. Peu de puissance. Gardez ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et Jésus dit, si tu ne renies pas mon nom, quiconque qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pas pour culpabiliser, mais notre témoignage, là où nous travaillons, dans notre famille, est-ce que nous cachons que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous avons peur de le confesser, de l'admettre? N'ayons pas peur de confesser Jésus devant les hommes. N'est-ce pas? C'est essentiel que nous le fassions. Plus de la moitié de la lettre à Philadelphie consiste en promesses de bénédiction et de victoire. Formidable. Nous avons déjà vu la promesse d'une porte ouverte. Et Jésus dit, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Voilà la vraie porte ouverte, c'est Jésus. Et la promesse de la porte ouverte est suivie d'une promesse qui, quand même, contient une menace. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je ne vais pas commenter la synagogue de Satan, on a déjà commenté cela quand on a lu la lettre à Smyrne. Mais la synagogue de Satan réunit tous ceux qui se disent gardiens de la vérité, mais qui persécutent et critiquent en disant mal de Jésus, de la Bible, de son Église, des autres chrétiens. Et puis celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Beaucoup de temples à Philadelphie, et dans tous ces temples, vous voyez le genre de bâtiment grec, il y a toujours beaucoup de colonnes. Et une colonne, ça sert à quoi? Ici, vous avez une colonne au milieu de la salle. Si je l'enlève, vous n'avez plus de salle, n'est-ce pas? Ça pourrait faire mal. Une colonne, nous espérons qu'elle reste en place. Elle a un travail à faire, n'est-ce pas? Elle doit soutenir ce qui est au-dessus. Et dans l'Église de Dieu, tous les pasteurs vont me donner raison. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de colonnes. Et les colonnes, c'est quoi? C'est pas comme ça dans le bâtiment. Ce sont des frères et sœurs qui soutiennent et qui restent en place, sur qui on peut compter. Parce que quand on enlève une colonne, l'Église risque de s'écrouler. Jésus promet aux chrétiens qu'ils seront une colonne, pas quelque chose de temporaire, mais quelque chose d'éternel. Et où cette colonne? Pas dans l'église à Bad Villers, mais dans le temple de Dieu, éternellement. Voudrait pas être une colonne dans le temple de Dieu? Si. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu, et mon nom nouveau. On parlera de cela plus tard, vers la fin des études, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, mais qu'il suffise maintenant de dire, nous aurons au ciel des nouveaux noms. Je ne sais pas comment vous vous appelez, et j'ai très difficile à retenir des noms. Des visages, oui, mais des noms, pas. Vous pouvez me dire votre nom maintenant, la fois prochaine, je l'ai déjà oublié, ne me prenez pas de mauvaise part. Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'au ciel, je ne vous adresserai pas par ce nom-là, parce qu'au ciel, on aura des nouveaux noms. Et non seulement des nouveaux noms, mais aussi une nouvelle adresse, n'est-ce pas? Quelle adresse? La même adresse qu'attendait Abraham. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Vous l'avez entendu, frères et sœurs, on m'a toujours dit que les Belges sont nés avec une brique dans le ventre. Vous pouvez avoir un joli villa, rien contre ça, mais vous ne le prenez pas avec. Et n'ayez pas du chagrin, parce que le villa en haut doit être beaucoup meilleur. Il faudra attendre, comme j'ai dit, jusqu'au chapitre 21 pour savoir plus de la Nouvelle Jérusalem. Mais voici déjà un petit avant-goût. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et la muraille de la ville était 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est ça notre ville, notre adresse éternelle. Et Jésus dit, viens bientôt, retiens ce que tu as. afin que personne ne prenne ta couronne. Encore un appel à la persévérance, comme nous l'avons vu dans les autres églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais vite terminer avec la troisième lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu sais que tu n'es ni froid. Ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, tous ceux que j'aime, et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Je commenterai pas, je dirai pas autant sur cette église-ci, parce que vous avez peut-être déjà pensé, beaucoup de choses que nous lisons ici, nous les avons déjà lues dans des autres lettres, où le commentaire a déjà été donné. Mais après, la lettre si encourageante à l'église de Philadelphie, qui ne contient que des compliments, vient cette dernière lettre à Laodicée, qui ne contient que des condamnations. Laodicée était aussi une ville très riche, renommée pour sa réputation de laine noire et pour... C'était un centre médical important, avec comme spécialité le traitement des maladies des yeux. On traitait les yeux avec un collier, avec une espèce de produit fabriqué localement. C'est une ville qui avait beaucoup de temples païens, mais aussi beaucoup de synagogues des Juifs, aujourd'hui une ruine. Et Jésus se présente à cette église comme le Amen. Qu'est-ce que veut dire le mot Amen? On le dit toujours après une prière, Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne le savez pas, il ne faut pas le dire. Ça veut dire, ainsi soit-il, que ce soit ainsi. Et il est souvent ajouté à des prières et des déclarations dans la Bible. Jésus, le témoin fidèle et véritable, Jean-Baptiste dit de lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jésus est le commencement, la création de Dieu. Et il s'introduit dans le livre de l'Apocalypse en disant « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » L'Église de Laodicée a beaucoup de mauvaises choses. C'est une lettre de jugement. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous aimez du café tiède? Non, hein. On n'aime pas une boisson tiède, chaud ou froid, mais pas tiède. Mais les membres de l'Église de Laodicée comprenaient très bien ce que voulait dire ceci, parce que l'alimentation d'eau de cette ville venait de deux sources. Une source d'eau froide, qui était très bonne à boire, et une source d'eau chaude, qu'ils appréciaient beaucoup pour alimenter leur bain public. Le problème, c'est que les deux sources d'eau étaient très près l'une de l'autre. Et souvent, l'eau qui était livrée à la ville n'était ni froide ni chaude, parce que l'eau se mélangeait. Et Jésus n'aime pas la religion tiède, n'est-ce pas? Nous ne devons pas être moitié, nous devons être parfaits. Sommes-nous tièdes? Dans la prière, la lecture, l'étude de la parole de Dieu, le témoignage, la liberté, la fidélité, etc. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et du zèle, non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Aie du zèle et repens-toi, dit Jésus à Laodicée. Sinon, je te vomirai de ma bouche. Encore une fois, une église hypocrite. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. L'église de Laodicée, quoi qu'elle est riche, mais Jésus dit qu'elle est pauvre. Quel contraste avec Smyrne, vous vous rappelez la fois passée, qui croyait qu'elle était pauvre, et Dieu disait qu'elle était riche. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Verset, ô favori de tous les évangélistes dans leur prédication. Mais remarquez que ce verset n'est pas adressé à des non-convertis, c'est adressé à l'Église. Je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce qu'il existe des églises où Jésus n'est pas dedans mais dehors? Malheureusement, si. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? C'est qui dit ça? Pas les gens du dehors. C'est des pentecôtistes qui disent ça. C'est nous qui prophétisons et chassons des démons et faisons des miracles, n'est-ce pas? Et Jésus dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est quand même fort, ça. Faut réfléchir, n'est-ce pas? Il y a tout de même encore une possibilité de repentance, même pour cette église de Laodicée. Car même si Jésus est exclu d'une église, frères et sœurs, il ne s'en va pas. Il frappe à la porte. Aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un, pas même quelques-uns, mais quelqu'un, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Une église n'est jamais condamnée. Mais Jésus n'ouvre pas la porte lui-même. Vous avez remarqué? Il n'ouvre pas la porte lui-même. Il force pas la porte. Il faut que quelqu'un entende qui frappe. Et que quelqu'un ouvre la porte. Jésus n'ouvre la porte jamais. Il force jamais une entrée dans notre vie. Il attend que nous l'invitions. Il y a une peinture célèbre qui montre Jésus qui frappe à la porte. Et vous remarquez, à cette porte, il n'y a pas de clinche. Il ne sait pas l'ouvrir du dehors. On ne peut l'ouvrir que de l'intérieur. Et c'est une bonne illustration. Seigneur est triste, déçu, dehors, mais il aime son Église toujours. Formidable, ça. Son amour ne s'exprime pas dans une consolation qui ne change rien, mais dans une conviction et un châtiment qui transforme et qui corrige. Un de mes tout premiers souvenirs d'enfance, je devais avoir 4 ou 5 ans, c'est que ma maman m'a pris sur ses genoux, visage en bas, et elle m'a imposé les mains. Très bibliquement, je ne sais plus quel péché j'avais commis, mais j'entends toujours ces paroles. Je te punis parce que je t'aime. Je dois vous avouer que l'enfant de 5 ans que j'étais, cette théologie-là me dépassait. J'ai pas compris. Maintenant, je comprends. Et quand Dieu châtie ses enfants, c'est pas pour nous faire mal. C'est parce qu'il nous aime. Et il veut nous corriger. Et il veut nous restaurer. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et puis Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Les bénédictions de Dieu sont bien gratuites, mais pas sans prix. Le prix a été payé à Golgotha par le sang de Jésus. Quand nous arrivons à la caisse du supermarché avec tout notre chariot rempli, nous devons payer, n'est-ce pas? Mais au ciel, on ne devra jamais payer pour les bénédictions de Dieu parce que ça a déjà été payé. Et nos vêtements blancs et le collier pour oindre nos yeux, on ne débitera pas notre compte. Et ce qu'on achète de Dieu est bien de bien meilleure qualité que ce qu'on achète au supermarché ici. De l'or qui rend riche éternellement, des vêtements purs qui couvrent vraiment la nudité, pas comme les ceintures des feuilles de figuier d'Adam et Ève, et un collier pour oindre les yeux qui rend vraiment la vue. Et alors terminons avec la promesse à cette église de Laodicée, et ceci, c'est bouleversant. Une église qui est si mauvaise, qui ne mérite rien, qui a tellement déçu son Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. On va voir ce que ça veut dire la fois prochaine. Mais les vainqueurs sont invités à partager le trône de Jésus, même ceux qui sont dans une si mauvaise église. Alors approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse richement, et Dieu voulant à la fois prochaine. Amen.